Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on commence donc en accueillant Sandrine Killissi. Bonjour Sandrine.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour Norman Kay et son ingénierie patrimoniale. On va parler fiscalité, je le disais, histoire de voir un petit peu dans cette période politique importante, comment est-ce qu'on peut coudre au mieux sa stratégie patrimoniale. Alors, on sait que finalement, il n'y aura pas de hausse de flat tax pour les revenus 2024, qu'il n'y aura pas non plus cette contribution différentielle sur les revenus, mais tout reste à l'étude, hein, on a envie de dire, et pour 2025, rien n'est joué, c'est ça ?
Exactement, tout reste à l'étude, et puis on a quand même l'impression que finalement, on va repartir quelque part de la base de la copie qui avait commencé à être rédigée fin 2025. Alors, il est fort probable que l'on retrouve cette fameuse contribution différentielle sur les hauts revenus. Alors, pour rappel, qui est-ce qu'elle concerne ? En réalité, elle va concerner les personnes qui perçoivent des revenus relativement importants, puisqu'il faut deux choses. D'abord, être assujetti à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ce qui implique d'avoir un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros lorsqu'on est une personne seule ou 500 000 euros lorsqu'on est une personne qui est soumise à une imposition commune. Mais en plus de cela, en fait, on y est assujetti lorsqu'on a un taux moyen d'imposition inférieur à 20%. Alors, ça veut dire quoi ? Les gens, évidemment, qui sont visés là derrière, ce sont évidemment les personnes qui bénéficient essentiellement de revenus soumis à la flat tax. Parce que la flat tax, en fait, c'est un taux d'imposition donc, qui est de 12,8% d'impôt sur le revenu, auquel on va ajouter les fameux 4% de CEHR en taux maximum. Et donc, là, on va se retrouver avec un taux d'imposition de 16,8%. Et là, ce que l'on veut, c'est qu'en réalité, ce taux moyen d'imposition passe à 20%. Donc en réalité, on se retrouverait donc avec 20% d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur le revenu, en réalité, auquel on va ajouter 17,2% de prélèvements sociaux. Donc on se retrouverait avec un taux d'imposition minimum de 37,2%.
Mais ça concerne une frange très particulière des contribuables. On ne parle pas là de la flat tax, entre guillemets, en elle-même. Celle-ci, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut redouter que ces 30 qui avaient été un peu sanctuarisés par Emmanuel Macron prennent un peu de plomb dans l'aile ?
On en entend parler. C'était déjà le cas en fin d'année. Là, ça revient comme un espèce de serpent de mer. Et l'idée, là, il y a des arbitrages. Est-ce qu'on l'augmente de 3 points ? Est-ce qu'on l'augmente de 5 points ? Et effectivement, le sujet, c'est que là, c'est toute personne qui percevrait des revenus de capitaux mobiliers subirait cette hausse de la flat tax et pas seulement les hauts revenus. Donc du coup, imaginons qu'on ait une augmentation de 3 points. En réalité, on passerait effectivement de 30% à 33%, et si j'ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, je passe à 37% d'imposition sur mes dividendes. Étant précisé quand même que 37%, ça n'est pas rien, parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que lorsqu'on parle de dividendes, ce sont des revenus qui ont déjà subi l'impôt sur les sociétés à 25%. Et cette augmentation de la flat tax, quand je vous disais qu'elle vise toute personne qui perçoit des revenus de capitaux mobiliers, en réalité, alors c'est tout à fait juste, mais sachant qu'elle n'impacterait pas nos fameux contribuables de tout à l'heure qui ont des hauts revenus, parce que les deux vont se cannibaliser.
On rappelle, augmentation de 3 points, pas de 3%. Non, il y avait eu dans l'espèce de maelstrom de l'Assemblée, quelqu'un qui dit on augmente de 3%, c'est pas bien grave. Non, c'était de 3 points. Hein.
Exactement.
C'est beaucoup plus que 3% en réalité. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des stratégies aujourd'hui, Sandrine Killissi, qu'on peut mettre en place finalement pour essayer de moins être exposé ou de limiter un petit peu notre exposition à ce genre de choix politiques ?
Alors en fait, déjà évidemment avec tous les atermoiements qu'il y a eu en fin d'année dernière, inutile de préciser que nombre de contribuables ont pris leurs précautions. Donc ça s'est traduit par des distributions importantes de dividendes en fin d'année dernière. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit que quand même, les recettes attendues sur cette hausse de fiscalité risquent d'être beaucoup moindres que ce qui avait pu être envisagé. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, en réalité, eh bien, derrière, on en revient toujours au même principe. Capitaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de détenir un portefeuille titre en direct, eh bien, on va aller chercher plutôt à le structurer dans une assurance vie, dans un contrat de capitalisation, ou pour les très, très gros patrimoines, ben, en réalité, à l'intérieur de holding patrimonial. Ce qui fait que dans tous ces outils-là, si on ne rachète pas ou si on ne distribue pas, il n'y a pas d'impôt. Ouais,
les capitaux restent en fait dans, dans l'enveloppe, dans la formule choisie, entre guillemets.
Exactement.
Encore que certains disent, même là, on pourrait... c'est ça, il y a des idées de certains géotrouve-tout fiscaux qui se disent, on va aller aussi taper ces fameuses enveloppes ou dispositifs.
Exactement. Et donc là, on voit revenir, ça aussi, c'est un serpent de mer qu'on a pu voir surgir dans certains rapports de think tank. Ça a été effleuré l'année dernière. Et puis là, on a carrément une proposition de loi sur un impôt minimum sur le patrimoine. Alors là, attention, hein, ça ne vise vraiment que les très, très gros patrimoines. Donc, pour être enfin, si jamais c'était voté, hein, pour être assujetti à cet impôt, il faut détenir un patrimoine net global de plus de 100 millions d'euros. Hein. Donc, ça ne vise pas tout le monde.
Familles.
On est bien d'accord. Hein. Ça doit viser à peu près 4000 personnes en France. Donc, c'est pas... Voilà. L'idée, ici, c'est quoi? C'est de dire, bah, finalement, le montant de l'impôt sur revenu de ces personnes auxquelles on va ajouter l'impôt sur la fortune immobilière, plus la fameuse contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, plus la CSG, plus la CRDS, l'ensemble, si l'ensemble de ces impôts représente moins de 2% de la valeur du patrimoine, eh bien le différentiel sera un impôt à reverser.
D'accord.
Et en fait...
De toute façon, on passe le rasoir de 2%.
Voilà, exactement. Mais parce qu'en en fait, on voit bien l'idée qu'il y a derrière... L'idée, ce qu'on vise, donc, c'est ces fameuses familles, c'est, comme ils disent, ultra riches, qui souvent, en fait, ont leur patrimoine qui est détenu via des énormes holdings patrimoniales, qui ne distribuent pas forcément de revenus, et en réalité, qui sont, toujours pareil, hein, d'après ce qu'on peut lire, gorgées de plus-values latentes, qui ne sont jamais réalisées parce que transmises de génération en génération. Et en fait, via une telle imposition, l'idée aussi, c'est d'imposer de manière détournée, de capter par l'impôt la plus-value latente.
On est bien d'accord que les caisses sont vides, qu'on cherche des moyens de l'inventivité fiscale pour remplir un petit peu les caisses. Malgré tout, s'il y avait un message qui était ressorti de l'élection d'Emmanuel Macron, c'était l'espèce de révolution fiscale, du fait qu'on avait une certaine stabilité, que les investisseurs, parce que lorsqu'on parle de ces grandes familles, ce sont aussi, et peut-être j'ai envie de dire surtout, des investisseurs, des gens qui tiennent des entreprises, qui font aussi marcher cette économie française. Et toutes ces fortunes, en fait, avaient choisi de rester ou de revenir en France parce qu'il y avait cette forme de stabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, en repartant dans un gros maelstrom, on risque pas, finalement, de revenir à nos anciennes lubies et d'avoir cette espèce d'exil fiscal, entre guillemets?
En fait, c'est toujours la peur que l'on peut avoir face à cette augmentation de la fiscalité, parce que justement, ces fameuses familles qui sont visées, effectivement, sont des grandes familles d'entrepreneurs.
Qui peuvent bouger,
et puis qui, elles aussi, sont susceptibles de... Enfin, l'entreprise est susceptible de subir aussi, vous savez, cette contribution exceptionnelle aussi, sur les bénéfices. Donc en fait, ça fait beaucoup de choses. Bon, ensuite, on va voir ce qui sera voté, ce qui ne sera pas voté. 2%, c'est quand même très important sur une valeur de patrimoine. Peut-être qu'il y aura un volant de négociation sur le taux, en réalité, à voir. Mais il faut être assez vigilant. Et souvent, ce qui est assez perturbant, c'est quand on lit, notamment dans le cadre de la proposition de loi qui a été faite sur cette imposition minimum sur le patrimoine, mais même ce que peuvent rédiger les think tanks, Ils expliquent que l'imposition sur le patrimoine n'a jamais été un facteur de délocalisation. En réalité, c'est faux. C'est vraiment faux. Et c'est, voilà, c'est ça qui gêne quand même. Il faut faire attention à ne pas faire fuir nos entrepreneurs.
Bon, je pense qu'on n'aura pas fini d'en parler. Merci en tout cas beaucoup, Sandrine Kilici, d'être venue pour Norman Kay, nous en parler en ce début d'année. À très bientôt.
À très bientôt.
Sur Radio Patrimoine, où on continue notre voyage au cœur de votre patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.